Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Boîte Relax, le podcast de la radio Queer As You qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs et entrepreneuses LGBTQIA+. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jenna Lagoward, photographe, réalisatrice, autrice et formatrice, co-gérante du studio Extra Studio au Mans. Bonjour Jenna.
Bonjour Christophe.
Alors Jenna, je vais commencer par te présenter. Tu es une femme transgenre, mariée à une personne non-binaire et maman de deux enfants. Tu vas nous raconter comment ta passion pour l'image t'a conduit à créer ton entreprise, mais aussi comment ta transition a transformé ton regard sur ton métier et tes clientes et clients. Tu vas aussi nous parler de ton engagement récent dans le réseau Queer As You, un réseau qui valorise l'accueil bienveillant et inclusif. Et tu partageras avec nous des anecdotes personnelles et professionnelles qui montrent à quel point il est possible d'être soi-même tout en réussissant dans le monde de l'entreprise. Jenna, peux-tu te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ?
Je crois qu'avant toute chose, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis fier d'être une femme trans, même si le contexte ne s'y prête pas tant que ça. Et je suis fier de où j'en suis arrivé. Je suis photographe, installé au Mans depuis 2008, et j'ai la chance d'être probablement la personne la plus têtue du quartier et d'avoir réussi à conjuguer ma vie de famille avec ce que je pourrais qualifier d'un parcours d'excellence.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à la photographie et à créer ton propre studio ?
Alors, moi, j'ai de grosses présomptions d'être sur le spectre autistique et il s'avère que je suis tombé dans la photo autour de mes 16-17 ans et à partir de là, complètement fasciné par ce médium, je me suis mise à tout faire avec un appareil photo jamais loin de moi. Il s'avère que ma scolarité n'a pas été tant un parcours d'excellence que ça, et beaucoup de portes se sont fermées, ce qui fait que assez tôt, en 2006, donc j'avais 22 ans, j'ai monté mon premier studio entre guillemets depuis chez mes parents, et ce studio en fait a évolué, a déménagé au Mans. Et beaucoup plus tardivement, en 2020, j'ai fait le choix de faire évoluer mon projet entrepreneurial en m'associant avec mon associé Florian.
Tu as donc un parcours riche, photographe, réalisatrice, autrice, formatrice. Qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui dans ton métier ?
Je crois qu'aujourd'hui, moi ça fait à peu près 3 ans, je dirais, que j'ai complètement changé mon approche du métier. Aujourd'hui, je me sens utile. Et l'accueil des gens et l'accompagnement des gens vis-à-vis de leur image, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, c'est quelque chose qui me passionne totalement. En fait, pendant plus de 15 ans, j'ai performé une recherche vraiment esthétique et technique extrêmement précise. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché la bride pour me concentrer sur mes modèles, c'est là où j'ai vraiment trouvé une richesse sans cesse renouvelée et énormément de satisfaction personnelle à pratiquer l'image.
Comment arrives-tu à concilier ta vie professionnelle avec ta vie de famille ?
Alors, là, c'est la partie, je pense, trouble de l'attention avec hyperactivité qui entre en jeu. Non, en vérité... J'ai installé mon studio dans une sorte de loft qui est accolé à ma maison. C'est un point qui est important dans le sens où, peut-être un point qui au départ était important dans la manière que j'avais de pratiquer la photographie. Je m'y suis installé en 2017 et il s'avère que mon partenaire Camille aujourd'hui est une personne handicapée, que en fait ça a fait sens de revenir vers une pratique plus casanière. Donc, je suis beaucoup moins hors du studio, j'accueille beaucoup plus dans mon espace et ça me permet d'être plus présente pour les miens, quand bien même je travaille énormément sur les jours de week-end et là où en fait mes clients particuliers sont disponibles mais du coup, il me suffit de passer la porte pour pouvoir m'occuper des miens et faire des petits allers-retours comme ça toute la journée.
Alors parlons maintenant de quelque chose de très important dans ton parcours personnel. Tu as transitionné assez récemment. Peux-tu nous dire quand et qu'est-ce que cela représente pour toi ?
Alors moi, j'ai commencé à me questionner à propos du genre en 2020. Ça a été une longue et pour être tout à fait honnête, un moment assez pénible de ma vie, parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais la peur de conscientiser que j'étais une femme trans. Je voyais dans les milieux militants à quel point nous étions entre guillemets, bas de l'échelle sociale une fois la transition en cours. Et en fait, pendant une période, je me suis emmouraché du terme, enfin de la non-binarité, quand bien même je pense que, et là je parle vraiment que pour moi, ça a été plus une passade pour ma part, et que ça a été une passade nécessaire, le temps d'accepter, parce qu'intérieurement je pense que j'avais beaucoup de transphobie intériorisée, et donc il m'a fallu encore environ un an et demi. Et je pense que j'ai commencé vraiment ma transition en tant que femme trans aux alentours de fin 2021-2022.
Tu m'as dit qu'aujourd'hui tu étais plus heureuse. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette transition a transformé ton quotidien ?
Je sais qu'aujourd'hui, avec les médias, avec Internet, avec les milieux militants, ça paraît parfois un peu hors de propos. Et la réalité, c'est que quand on n'est pas dans nos milieux, en fait, on est perdu. Et moi, j'étais arrivé à un stade de ma vie où j'allais mal, profondément. Mais je savais pas pourquoi. J'avais essayé plein de trucs. J'étais à l'époque dans un important surpoids. Et forcément, les médecins en face questionnaient une éventuelle dépression, questionnaient mon rapport au poids. Et en fait, ça a duré quasiment toute une vie avant que je comprenne pourquoi je ne me reconnaissais pas dans le miroir. Et effectivement, à partir du moment où j'ai compris et passé cette petite période transitoire qui a été assez pénible, je me suis vraiment révélé à moi-même. Et quand on se révèle à soi-même, je pense que c'est plus facile de se révéler au monde et d'accueillir les autres.
Donc tu as évoqué que ton regard sur tes clients a changé après ta transition. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets ?
Y a deux grandes facettes. Y a, je pense, une part des clients qui n'a pas compris, qui a un peu disparu, parce que c'est la difficulté quand on est entrepreneur. Il y a cette notion du client qui disparaît et qui ne valide pas le dernier devis. Et puis, il n'a rien, il ne nous doit rien, même si on a de lourdes présomptions sur la raison. Et puis, il y a ceux qui ont compris, en fait, qui ont compris à quel point j'étais plus heureuse et qui ont vu. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai l'impression que c'est quand même une majorité dans mon cas, avec des gens qui ont été extrêmement bienveillants, qui ont très très vite changé dans leur façon d'interagir avec moi, les pronoms, les noms. Alors bon, sur la partie, moi j'avais beaucoup d'entreprises face à moi à l'époque, mais du coup juste changer dans les mails, etc., ça s'est fait de manière très fluide. Et je pense que le plus beau truc qu'on m'a dit, c'est une très ancienne modèle qui m'a écrit hier soir, qui m'a envoyé un vocal. Elle vit au Canada maintenant. Et elle m'a dit, je t'ai bouleversé. Je suis heureuse que des gens comme toi existent. Je suis heureuse de te voir rayonner et de voir qu'on peut être soi-même et on peut finalement évoluer dans le monde en 2025 en étant soi-même et en brillant, en illuminant les choses comme ça. Et j'avoue que j'ai été extrêmement touché parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis des années et qui me suit que finalement à travers mon travail sur les réseaux, etc.
C'est beau.
Ouais.
Dans tes formations, tu enseignes cette approche bienveillante et adaptée. Quelle situation spécifique cherches-tu à illustrer avec tes étudiantes et étudiants quand il s'agit de couples de femmes, de couples gays, de femmes enceintes avec leurs compagnes ou autres?
Alors en fait, j'apprends aux gens, c'est un peu dur dit comme ça, j'apprends aux gens qu'on ne connaît rien à rien. Et que quand une personne passe la porte de notre studio, elle peut être, elle peut vivre tout un tas de choses dont on ne connaît rien et dont on pourrait, il faut mieux se garder de, comment dire, il faut mieux se garder de projeter des choses sur les gens parce que toutes les personnes qui passent le pas de ma porte me surprennent. Et pourtant, j'ai quand même un passif, une lecture des codes qui est différente. Et donc, j'apprends à mes stagiaires et étudiants à accueillir l'autre et à surtout accepter de poser des questions idiotes autant qu'on peut recevoir des questions idiotes pour que tout le monde se sente sur un niveau d'égalité total. J'ai eu le cas d'un couple d'hommes dans une séance famille multigénérationnelle, donc c'est les grands-parents, les enfants, etc. Il y a pas mal de monde. Arrive le cas de ce jeune homme qui me dit avec son amoureux, on ne s'est pas posé. Et plutôt que de le projeter dans une image qui n'était pas la mienne, je lui ai dit, mais c'est OK, en fait, moi non plus. Et nous allons essayer ensemble. Et tu verras, à l'arrivée, je te présenterai des choses. Et vous serez en mesure de regarder, parce que pour moi, dans ces photos-là, il y a la photo qu'ils choisiront pour être leur image de couple. Mais il y a aussi les autres photos qu'ils graveront en mémoire sans forcément les emmener avec eux pour se dire « Ok, ça, ça ne nous convient pas. » Et pour les fois d'après, pour dans l'avenir, quand ils seront à un mariage, quand ils seront dans des événements familiaux où un photographe ou une photographe est présente, ils seront posés en se disant, bah, ça c'est nous, en fait. Parce qu'effectivement, dans leur cas, eh ben, des photos typiques de famille queer, il n'y en a pas.
Alors passons maintenant à quelques anecdotes liées à ta vie d'entrepreneuse. Lors de ta transition, comment ça s'est passé avec ton associé et avec tes clientes et clients?
En premier lieu, moi j'ai été assez ouverte sur le sujet. Les clients les plus réguliers ont vu sur les réseaux que j'avais changé de nom de signature, que j'ai changé les noms des réseaux sur lesquels j'étais, ce qui leur a permis, là-dessus je remercie les réseaux du type LinkedIn, Zoom, Teams, etc., où on pouvait intégrer ces pronoms, où on pouvait marquer ce genre d'informations, ça a permis, on va dire, aux plus curieux et curieuses de venir au contact et de dire, j'ai vu que tu avais changé ton prénom, tes pronoms. Et puis, les moins éduqués, les moins informés sur le sujet, se sont habitués dans le temps long, finalement. Et pour être tout à fait honnête, je pense pas avoir fait tant que ça de reprise des gens, parce que je me présentais de cette manière-là dans mes mails, dans mes échanges formels, finalement j'ai mon look et mon apparence physique qui a changé aussi assez spectaculairement pendant cette période. Je pense que ça a aidé aussi sensiblement les gens à se déshabituer. C'est pas très radiophonique, mais faut imaginer que moi, quand j'ai commencé mes questionnements de genre, j'ai perdu 45 kilos en à peine 6 mois. Wow. Et je suis passé d'une personne très, très corpulente, avec une énorme barbe noire, comme dans les contes pour enfants, à une personne au genre beaucoup moins lisible et avec les cheveux bleus. Donc, autant vous dire que ça a été assez spectaculaire. Et donc, je pense que ça a aussi permis aux gens de dire « Ok, il y a eu un changement, on va questionner un peu plus ouvertement les choses. » Concernant mon associé, il faut bien savoir que quand on est associé dans une entreprise, tout le monde nous le dit, hein, quand on signe, il y a un côté, vous savez que vous allez vous lier de manière encore plus forte qu'un mariage. Et c'est vrai, c'est-à-dire que moi, quand j'ai eu des doutes, quand j'ai eu des moments de doute personnel, j'en ai toujours fait part à Florian, mon associé, parce que je trouvais ça important qu'il ne se retrouve pas le bec dans l'eau si, si finalement je perdais les pédales, si je perdais en énergie et en envie. Donc on a toujours eu des discussions et on a toujours vu des mises en place. Par exemple, quand j'ai changé mes pronoms et mon prénom, en fait, on a changé les documents et pour lui, c'était très transparent. On a juste attendu que ce soit le cas à l'état civil pour faire les changements des statuts de la société. Et chose assez jolie, notre avocat Yvan, que je salue au passage, nous a fait la remise sur la partie changement de ces éléments-là dans les statuts de l'entreprise.
Quel conseil donnerais-tu à une entrepreneuse ou à un entrepreneur LGBTQIA+ sur la gestion des relations professionnelles pendant ou après une transition ?
À mon sens, il faut faire attention à ne pas isoler l'autre sans le vouloir. C'est probablement une erreur que j'ai faite, même si j'ai été volubile sur la question. Je pense que c'est un monde que peu de gens connaissent. Et je pense que c'est important d'accompagner les gens qui sont les plus proches de nous, parce que moi j'ai la chance, voilà, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, on a la chance de pouvoir changer énormément de choses très rapidement, parce que on est maître à bord. Et dans les faits, et ben en fait, les gens autour de nous peuvent avoir un peu l'impression d'être laissés sur le bord de la route avec des changements qui sont extrêmement rapides. Et comme ils sont en première ligne, au même titre que mon conjoint ou que mes enfants, finalement, d'un coup, ils se retrouvent à devoir reprendre les gens qui me mégenrent, reprendre les gens qui n'utilisent pas le bon prénom. Donc effectivement, je pense que si... Dans ces cas-là, faites de vos associés, faites de vos partenaires les plus proches votre première ligne, au même titre que votre famille, la plupart du temps, quand on transitionne à un âge aussi avancé que le mien, est aussi en première ligne des gens qui doivent être autour de nous et nous accompagner. Mais effectivement, j'ai la chance d'avoir un associé qui a été très compréhensif et qui a été très soutenant sur ces questions-là.
Alors j'aimerais maintenant revenir plus en détail sur tes clients et clientes. Après ta transition, est-ce que tu as observé des changements dans tes relations avec Yel, une perte ou un accroissement de clientèle ou une mise en confiance particulière ?
Je pense qu'effectivement, les regards se tournent. Je ne sais pas si c'est... Alors, j'en ai forcément plus que je n'en avais. Maintenant, chose assez amusante, alors moi j'ai vu un switch assez important, mais qui est, je pense, lié aussi à la modification de mon travail et de ma manière de le faire. En fait, je me suis entouré de gens qui étaient très différents de mes clients d'avant, qui sont beaucoup plus dans la sensibilité, qui sont beaucoup plus dans l'expression de soi. Et en fait, tous ces gens-là se sont amalgamés au fur et à mesure. Faut savoir que moi, quand j'ai transitionné, j'ai tenu un compte qui était un compte Instagram. Je voulais que ce soit quelque chose de public pour ne pas le modifier. Et ce compte Instagram, en fait, je m'en suis servi pour exprimer tous mes questionnements, pouvoir vraiment tout poser et travailler notamment les changements liés à mon corps. Et en fait, j'ai plein de gens qui se sont amalgamés autour de ce projet que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont dit « Mais ce que tu écris, moi, je l'ai ressenti pour une toute autre raison et j'ai jamais su le mettre en mots. Les photos que tu as faites de telle ou telle partie de ton corps, elles m'ont beaucoup touché parce que moi aussi, j'ai un problème avec telle ou telle partie de mon corps. » Et donc, en fait, j'ai créé une bulle autour de moi de gens qui avaient, je pense, besoin de voir ce genre de choses, de voir le doute dans la création artistique, de voir des réflexions sur la corporalité, sur les changements émotionnels. Et en fait, du coup, j'ai aussi changé lourdement parce que je suis passé de photographe quasiment que publicitaire à photographes que de personnes et principalement de familles. Donc en fait, tous ces gens-là se sont créés au fur et à mesure de ma transition comme des clients de passage et ont créé une sorte de communauté autour de mon travail artistique, ce qui fait que je peux dire que techniquement, je me suis entouré de gens bienveillants, en fait. Je pense parce que j'ai beaucoup communiqué autour de la bienveillance, de l'expression de soi. Donc, quelque part, je pense que j'ai perdu certains clients les plus rétrogrades et corporate, mais fondamentalement, étaient-ce mes clients ? Je ne sais pas. Au profit d'une clientèle qui me ressemble, en fait, et qui est, pour le coup, beaucoup plus soutenante.
Est-ce que tu penses que tu apportes quelque chose de particulier ou de supplémentaire à tes clients et clientes grâce à ton expérience et à ton identité ?
Alors, complètement. Je pense que... je sais que ça va faire grincer des dents, mais le fait que je sois, en termes de lecture aujourd'hui, physiquement, je suis une créature neutre sur le plan du genre pour beaucoup de personnes qui ne sont pas sensibilisées à voir des personnes trans. Et ce cas très particulier m'aide parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui osent complètement s'épancher et me donner beaucoup d'insight sur comment ils se sentent et qui me permettent de produire pour elles et pour eux des photographies et des textes beaucoup plus pertinents parce qu'en fait, ils ne me voient pas ni comme une concurrente, ni comme une personne agressive sur le plan du genre. Et je pense que ça aide énormément les gens d'avoir finalement cette sorte de personne très ouverte, très lumineuse et très, très au fait d'elle-même. Ça les aide beaucoup à venir parler des petits sujets qui les taraudent. Et c'est pas rare, moi, quand je fais des séances photos, notamment de famille, je prends très souvent chaque membre de la famille indépendamment pour prendre un peu le pouls de chacun. Et j'ai souvent des personnes qui me disent « Mais moi, je préférerais être seule avec toi parce qu'il y a trop de regards. » Et en fait, ils osent se confier à moi. Et j'en ai fait une force dans mon travail parce que du coup, je peux créer une connivence qui leur permet d'être vraiment eux-mêmes sur les images.
Ton approche unique de la clientèle et ton regard bienveillant s'inscrivent aussi dans ton engagement plus large pour l'inclusivité, que l'on retrouve notamment dans ton adhésion récente au réseau. Qu'est-ce qui t'a convaincu de t'engager avec Queer As You ?
Je pense que déjà, c'est compliqué de rejoindre des réseaux quand on est une personne queer pour plein de raisons. Parce que moi, par exemple, dans les réseaux d'entrepreneuses, c'est pas toujours évident d'arriver en tant que femme trans. Aussi parce que j'avais besoin, en fait, d'aller vers des personnes qui ont des vécus proches du mien. C'est bête, mais c'est vrai que c'est plus facile, je trouve, d'échanger sur le temps long avec des personnes qui ont des vécus similaires, qui ont des engagements et des valeurs similaires. Et quand je suis tombé, en fait, sur les publications, je me suis dit, mais en fait, c'est une merveilleuse façon de communiquer auprès des clients-clientes et potentiellement de ceux qui ont un peu quitté le bateau à la suite de ma transition, finalement, nous sommes des entrepreneurs et entrepreneuses comme les autres. Et même, j'irai plus loin, notre regard particulier, notre vécu si particulier, nous permet aussi d'apporter des réponses créatives et pertinentes à leurs problématiques, entrepreneuriales à eux.
Pourquoi est-il important pour toi d'afficher un autocollant, de signer une charte et d'accepter d'être évalué par tes clientes et clients à l'aide de questionnaires de satisfaction ?
Je pense que beaucoup de gens me prêtent des adjectifs. On m'a souvent dit « Ah, mais toi, pourquoi tu ne dis pas que tu es safe ?» Et pour moi, un lieu safe, il n'a pas à le marquer. C'est les gens qui détermine si un lieu est adapté et adéquat. C'est bien aujourd'hui que de grands groupes dont les GAFA permettent de mettre je suis, j'accepte, je suis pro-clientèle, un tel, machin. Mais en même temps, c'est important d'avoir un vrai retour des clients et clientes qui vont dire « Ah oui, effectivement, moi j'y suis allé et c'est pas juste du queerwashing en fait. » Parce que c'est facile de se dire bienveillant et de mégenrer toutes les personnes qui passent la porte, quoi.
Lors de nos échanges, tu m'as raconté une expérience forte. Le jour de ta première délivrance d'hormonothérapie, une pharmacie t'a refusé le traitement. Comment ce type de situation a-t-il influencé ta vision de l'inclusivité et de la bienveillance dans les établissements qui reçoivent du public ?
C'est assez terrible quand on a déjà délayé son questionnement de transition à cause de la peur de l'impact social que ça aurait d'arriver avec sa première ordonnance et de se faire refuser des soins, ce qui est gravissime en France. Ça m'a beaucoup perturbé parce que pour moi, qu'un soignant soit pas particulièrement bienveillant, ça m'agace. Mais je peux passer outre à condition qu'il fasse son travail. Et là, il a refusé. Enfin, la personne qui m'a accueilli a complètement refusé de faire son travail. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que je pense que la personne qui m'a accueilli, elle était pleine de préjugés et elle a décidé que non. Je trouve ça terrible et en même temps je me dis que je doute qu'elle ait eu un vécu suffisamment violent avec une personne trans pour décider de bannir toutes les personnes trans de sa clientèle. Donc je pense qu'effectivement une question éduquer, aller au contact de ces établissements et leur dire est-ce que vous faites attention à ça, ça me paraît être une démarche primordiale aujourd'hui pour éviter à des personnes de prendre ce genre de décision complètement ubuesque qui est le refus de soins ou le refus d'accueil dans un établissement recevant du public. Quoi.
Et selon toi, quel est l'impact concret de savoir à l'avance qu'un lieu est inclusif et bienveillant quand on est une personne LGBTQIA+ ?
L'impact concret, c'est l'angoisse en fait, c'est la réduction de l'angoisse. Moi, quand j'ai commencé à transitionner, que je voulais essayer des vêtements parce que j'avais pas forcément envie de faire appel à la fast fashion et à ce genre de choses, je me suis heurté à la question de dans quel endroit je vais pouvoir aller essayer une robe sans qu'on me regarde avec des grands yeux ronds, dans quel endroit je peux rentrer sans me faire mégenrer. Et donc, savoir à l'avance qu'un lieu est inclusif et bienveillant envers les personnes LGBTQIA+, ça me paraît hyper important parce que ça permet d'y aller sans se dire je vais devoir, entre guillemets, m'armer, me préparer intellectuellement comme si j'allais à une bagarre juste parce que j'ai peur que ça se passe mal. Parce que c'est pas une vie, en fait. On peut pas vivre en se disant j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'à commander mon repas au restaurant, en fait. C'est pas possible. Donc, savoir à l'avance qu'un lieu est inclusif, c'est fondamental pour des personnes queer.
Parlons maintenant de tes conseils et messages aux futurs entrepreneurs et entrepreneuses LGBTQIA+. Si aujourd'hui une personne hésite à créer son entreprise, quel message aimerais-tu lui transmettre ?
Qu'il faut pas hésiter à être soi-même et à le faire vraiment. C'est-à-dire que créer une entreprise en se disant qu'on va polir les angles et qu'on va ressembler à n'importe quelle autre entreprise parce qu'on a peur d'apparaître, c'est la pire chose qui puisse nous arriver en tant que personne LGBTQIA+. Donc, soyez entreprenant, entreprenante, soyez vous-même parce que rien n'est pire que de réussir en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Et spoiler alert, je doute que la réussite soit vraiment complète en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Et surtout, aller chercher d'autres entrepreneurs, queer ou en tout cas alliés. Partagez vos vécus, évitez de faire des erreurs par peur d'aller vers l'autre, par peur d'aller filer des informations et des conseils, parce que en réalité, je vois énormément de jeunes gens queer monter des boîtes et finalement créer des projets qui sont pas stables professionnellement parlant, parce que fait entièrement en sous-marin et en espérant ne parler qu'à la communauté, on ne peut pas fonctionner en vase clos. À un moment, il faut accepter de briller pour tout le monde et accueillir tout le monde. Il y aura toujours des rageux, il y aura toujours des gens qui sont contre nous. Néanmoins, ils représentent une toute petite partie de la population. Et il y a des tas. J'ai énormément de clients et clientes qui sont dans une hétéronormativité la plus totale et qui sont des amours, qui sont soutenants et qui, je pense, sont aujourd'hui encore plus sensibilisés qu'avant à mon contact au fait des difficultés de l'entrepreneuriat en tant que personne queer et qui, de ce fait, sont très attentifs, attentives à mes nouveautés, à mes prises de parole, etc. Donc, soyez vous-même.
Et pour conclure cette émission, parlons projet. Quels sont-ils ? Quelles sont les grandes étapes à venir pour toi et pour ton studio de photographie ?
Continuer mon parcours d'excellence. Chaque fois que je monte sur une scène récupérée... Pardon, je pleure. Chaque fois que je monte sur une scène, c'est pour les autres. C'est pour montrer au monde que on n'est pas relégué au sous-sol. On n'est pas relégué à une autre place. On a le droit d'être là. Et je me bagarrerai toujours pour apparaître avec les plus beaux titres et les plus belles médailles. Montrer aux gens qu'on existe. Montrer aux gens qu'on existe en faisant un travail qui nous ressemble. J'ai reçu un des plus grands prix de photographie professionnelle européenne en faisant lire un texte évidemment intime et queer à une personne cis-hétérosexuelle à l'autre bout de l'Europe, et voir en vidéo sa lecture recueillir un tonnerre d'applaudissements m'a complètement retourné. Je pense que plus que jamais, en 2025, nous devons prendre notre place dans la cité, au sens athénien du terme, parce que nous avons bien plus à donner que tout ce que nos détracteurs pensent. Nous pouvons changer les choses.
Merci infiniment, Gina, pour ce partage inspirant et authentique. Ton parcours est un véritable exemple de courage, de passion et d'engagement.
Merci beaucoup. Merci infiniment de m'accueillir sur les ondes. Sincères excuses pour ma voix de canard. Je suis très prise depuis plusieurs jours. Et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté et son inclusion dans l'entrepreneuriat en France.
À bientôt, Gina.
À très vite.
Pour celles et ceux qui sont intéressés par le travail de Gina, je vous invite à vous connecter directement sur son site web à l'adresse https-extrastudio.fr. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneuses LGBTQIA+. Si cet épisode vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la Radio Queerazio pour un prochain épisode de Ma Boîte Relaxe.